I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jacques Hubert. Réalisation Lise Com. Autour de moi ce soir, Sandra Adam-Corralet, Corinne Rondeau et Stéphane Coréard pour parler ensemble de l'exposition Le Cubisme au Centre Pompidou à Paris, Alberto Giacometti entre tradition et avant-garde au musée Mayol, Make It New, conversation avec l'art médiéval, c'est une carte blanche à Yann Dibetz à la BNF, site François Mitterrand, et il y aura un coup de cœur de Corinne Rondeau pour Picasso, le temps des conflits et lignes de fuite, carré d'art de Nîmes. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film Première Solitude de Claire Simon, qui est sorti ce jour dans les salles et dont nous parlerons ce vendredi dans la dispute. Nous ouvrons cette dispute en nous rendant au Centre Pompidou pour y découvrir l'exposition sobrement intitulée Le Cubisme. Alors titre sobre mais enjeu quand même assez immense. D'autant que c'est la première exposition sur ce sujet organisée en France depuis 65 ans. Forcément, depuis 53, le regard sur le cubisme a changé, évolué, s'est complexifié. Braque et Picasso et Stéphane Coréard qui fait déjà des grimaces. Braque, Picasso et Stéphane Coréard, non. Braque et Picasso ont peut-être caché la forêt. Ce sont quand même de sacrés arbres. Cette exposition vouloir donner sa place à tous les autres, ainsi qu'à la galerie de Daniel-Henri Cadveller. Les commissaires de l'exposition sont Brigitte Léal, Christian Briand et Ariane Coulondre. Ils ont organisé ce parcours en 14 chapitres, regroupant au total près de 300 œuvres. Et c'est Corinne Marchand qui est la scénographe de cette exposition, Le Cubisme. Le cubisme au Centre Pompidou, Stéphane Coréard a fait la grimace, c'est donc Corinne Rondeau qui commence à en parler.
Ben écoutez, je dirais qu'il y a à boire et à manger dans cette exposition.
Ça veut dire qu'on peut y rester un certain temps déjà.
On peut y rester un certain temps.
À boire et à manger, on est tranquille.
Oui, alors elle a une volonté d'ouvrir chronologiquement, c'est-à-dire ce qui représenterait un peu les influences, les arts extra-occidentaux, et puis... Cézanne, puis Gauguin, voilà, on regrette qu'il pas carrément pour l'ouverture, puisqu'il manque le fameux tableau qui va donner lieu vraiment au cubisme qui est à New York, qui sont les Demoiselles d'Avignon. On aurait pu avoir par exemple le bain turc, tant qu'à faire. Et puis ensuite, effectivement, on a le cubisme cézannien, on a ensuite le cubisme analytique, on va dire, qui est sur des tons camailleux, qui est un peu froid... Et puis, on a d'autres cubistes. Et puis, après, on a le cubiste synthétique qui est lié, en fait, au travail du collage. Et puis, après, on a tout ce qui est, qui peut relever d'une influence du cubisme. Bon, alors moi, je suis un peu gênée par cette exposition parce que, bon, qu'elle commence par Cézanne. Bon, je veux bien, sauf qu'on ne sait pas à quel moment Picasso aurait vu éventuellement des Cézannes, peut-être chez Léo Stein, le frère de Gertrude. Moi, je suis vraiment gênée parce que cette exposition ne serait pas appelée le cubisme, mais cubisme au pluriel, ou des avant-gardes, ça m'aurait moins gênée. Parce que partir de Cézanne, dont on ignore finalement l'influence réelle de Picasso au moment où il peigne, hein, vraiment, puisque c'est après, en 1907, qu'il y a l'exposition chez Vollard de Cézanne. On peut imaginer qu'il aura vu, puisque c'est le même marchand, que Picasso aura vu des Cézanne. Bon, mais moi je suis tellement attachée à la révolution de cette conscience plastique de l'espace par Braque et Picasso, que voir en fait s'organiser tout le courant qui va suivre cette révolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir du survage, c'est-à-dire du rythme coloré, ça veut dire qu'il va y avoir de l'orphisme avec Delaunay, qu'il va y avoir du tubisme avec Léger, et qu'on va voir, on va jusqu'à aller au post-cubiste, qui est une œuvre de Malevitch à la fin, un Tatlin, voilà. Et moi, j'ai un peu de mal, si vous voulez, à me dire, est-ce qu'on donne vraiment une vision très historique, ou alors on donne ce qui a ouvert les artistes à avoir une sorte de singularisation sur le travail de l'espace à travers le chevalet. Parce que quand vous avez un Marcel Duchamp au milieu, et qu'on veut vous faire croire que le collage, c'est vraiment une révolution, et évidemment que c'est une révolution le collage, mais qu'on veut vous le faire mettre en comparaison quasiment très proche avec un ready-made, je dis non. D'autant que la roue sur le tabouret n'est pas un ready-made à l'époque où Duchamp le fait. Donc il y a une manière de... Si vous voulez, cette exposition est un aspirateur à absorber toutes les singulières et les expérimentations qui ont été faites à partir de cette conscience plastique de l'espace, puisque qu'ont fait Braque et Picasso, ils ont brisé la tradition de la perspective linéaire, c'est-à-dire comment on produit un espace, une illusion d'espace, à partir de la perspective où le clair-obscur est. Donc, comment produire du relief ou du volume sans passer par ça?
Autrement.
Et donc, ça, c'est pour le coup, c'est une manière de se dire, on est à la recherche de, plutôt que de dire, on va casser la tradition. Parce que, il y a quelque chose aussi qui se joue à cet endroit-là. Évidemment, Cézanne est quelqu'un qui va anticiper cette manière de monter le plan et non pas le creuser. On peut voir ces choses-là déjà chez Courbet, mais cette manière dont il a de monter en petit aplat de couleurs les paysages de la Sainte-Victoire, par exemple, c'est pas parce qu'on va le mettre à côté d'un Braque avec des petits aplats de peinture et après on va mettre un Delaunay qui ressemble que c'est du cubisme. Enfin, il faut à un moment donné avoir une certaine rigueur, je dirais, historique, parce que quand il y a... Oui, je m'arrête, parce que là, je serai interminable.
Non, mais vous reviendrez, Corinne. On va juste profiter des autres regards, à commencer, à poursuivre celui de Sandra Gardencourallet. Vous avez des problèmes, vous, avec cette exposition?
Eh bien, justement, moi, j'ai trouvé que l'exposition, elle raconte à la fois que le cubisme, c'est à la base... le fruit de recherches qu'ont mené Picasso et Braque, qui se sont inspirés de la découverte des arts extra-européens, de Cézanne, de ce retour à la taille directe aussi admiré chez Gauguin. Enfin, vous en parliez, Corinne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que justement le cubisme à la base, c'était pas un mouvement, et que tout d'un coup, ça a échappé finalement quelque part à Picasso, à Braque, et c'est devenu une sorte de nouvelle manière de peindre qui devait être imitée, qui faisait partie des sortes de presque de béaba dans les grandes académies, et va devenir une mode, comme le montre très bien un petit film d'ailleurs qui est dans l'exposition, qui s'appelle je crois Le peintre cubiste, qui nous montre une sorte de caricature du peintre cubiste qui est attifé comme cela de formes géométriques. Et alors, dans cette exposition, il y a à la fois, justement, je trouve quand même de manière assez didactique, l'histoire du cubisme autour de Picasso et Braque et de leur recherche propre de manière chronologique. Picasso domine largement l'exposition. Décidément, c'est quand même un artiste... assez inépuisable, mais ce qui changeait justement d'une simple exposition Picasso et compagnie, et ça fait du bien, je trouve, que c'est que ce sont certaines salles, notamment toutes ces salles consacrées au salon cubiste de 1911 puis de 1914, il me semble, où on voit justement tous ces acteurs, ces peintres, autour de Picasso et Braque, qui ont fait partie du cubisme, et puis d'autres, puisque le mouvement en fait s'internationalise, qui se sont emparés de cette manière de peindre, qui finalement correspondait au fait que ce n'était plus l'histoire d'une peinture comme une fenêtre ouverte sur le monde, mais d'une peinture qui devenait petit à petit, non pas abstraite, mais qui devenait objet, comme on le voit avec les assemblages de Picasso. Et alors moi, j'étais justement agréablement surprise de voir à la fois que le cubisme... mener effectivement aux recherches abstraites, plus abstraites on va dire chez un Picabia, mais aussi tout d'un coup confronté aussi à un mouvement qui était parallèle, qui était le futurisme, amené à cet orphisme incroyable de Sonia Delaunay. Et puis des découvertes aussi, pardon, il y avait ce projet de maison cubiste que je trouvais assez drôle, de Raymond Duchamp-Villon, qui était une sorte d'ensemble d'art décoratif qui lui avait été commandé. Il avait imaginé toute la façade d'un hôtel particulier et ce fut un immense scandale. C'est même remonté, je crois, jusqu'à la Chambre des députés et c'est Marcel Samba qui a dû défendre les cubistes. Il y a cette découverte-là. J'ai aussi redécouvert Juan Gris avec des tableaux qui montrent une face cubiste très colorée. Il y a une série de Nature Morte de 1913 alors qui reprend les motifs récurrents du cubisme. Alors on a la bouteille, le verre cannelé, le faux bois, etc. Mais on a là une gamme colorée très très vive et une composition très dynamique. Et il y a notamment une œuvre du Metropolitan qui s'intitule « Poire et raisin sur une table » que j'ai trouvée assez surprenante de modernité dans le sens où... elle est presque pop, voilà. Et d'ailleurs, il y a toute une partie de l'exposition qui est dédiée à la couleur et qui montre en effet que le cubisme n'a pas été que monochrome. Et il y a notamment une œuvre très forte de Picasso sur fond vert, un portrait de jeune fille de 1914 qui change justement de cette sévérité du cubisme initial qui était dans des sortes de camailleux bruns et gris où on voit une jeune femme totalement mêlée à des objets de décor qui l'entoure comme si elle faisait plus qu'un avec lui. Voilà, moi, pour toutes ces découvertes, j'ai aimé l'exposition.
Enfin, pour le coup, les deux modèles d'Avignon, elles sont tous sauf monochromes et grises. Hein. Mais donc, enfin, la couleur, elle est quand même présente à différents moments chez différents artistes.
Vraiment pop, c'est-à-dire Juan Gris, là, on a du jaune, du rouge, très, très franc. Enfin,
qu'on a dans le cubisme synthétique, les couleurs sont très vives en général.
Très vives.
Qui reviennent, mais vraiment par point, enfin en tout cas de disons que dans la vision commune qu'on peut avoir.
Ah oui, moi j'ai pas celle-là moi. C'est pour ça que je partage avec vous. Hein,
Moi j'avais en tête un cubisme très. Alors c'est cette partie hermétique en fait qui est peut-être plus connue où on est vraiment dans des gris, des camailleux assez sombres.
Vous avez plus de goût pour l'hermétisme que moi. Voilà, c'est la seule morale je crois qu'on peut tirer de ce mini échange. Stéphane Correa, ronger son frein. Il le fait tellement bien.
Non, pas du tout. Vous avez juste dit tout à l'heure que je faisais une grimace. En fait, je faisais pas d'abord une grimace sur l'exposition, mais sur ce que vous disiez, qui était que c'était une vision renouvelée. Enfin, qu'à 65 ans après, on ne faisait pas la même exposition. Or, moi, j'ai vraiment eu l'impression de visiter une exposition de 1953 et pas une exposition
de 2018. Et le regard sur le cubisme a changé, a évolué. J'ai pas dit que c'était celui de l'exposition qui avait changé, a évolué. Vous ne m'écoutez pas avec une attention assez soutenue. Stéphane Correa, ça ne peut plus durer.
En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le regard a évolué, mais pas celui qui nous est proposé effectivement dans l'exposition, qui est en fait une exposition en forme de dissertation de l'histoire de l'art, comme quand Raymond l'a rappelé. Il y a une salle d'introduction, une première partie c'est le cubisme historique, la deuxième partie le cubisme de salon, et puis la conclusion évidemment qui est soi-disant la postérité du cubisme, parce que quand même ce que vous avez décrit Corinne, ça tient à chaque fois en 20 mètres carrés. Hein. Il y a deux Cézanne, deux Gauguin et des arts extra-européens, ça c'est 20 mètres carrés.
À
la fin,
Malevich
et Mondrian,
bon,
mais c'est les deux salles les plus petites de l'exposition.
Ouais.
Alors évidemment, on peut craindre le pire des amalgames et des approximations à partir de là, et on n'est pas déçu. Ça commence effectivement dès la première salle, c'est-à-dire qu'effectivement, ces sources d'inspiration, c'est celles dont on nous rebat les oreilles depuis 60 ans. Mais moi, j'aurais aimé, par exemple, voir là le douanier Rousseau, qui est une vision beaucoup plus contemporaine, où on se dit que ce primitif moderne, qui avait un point commun très fort avec Picasso, c'est un de ses premiers regardeurs, Wilhelm Hude, qui est également le soutien indéfectible du douanier Rousseau. On pense que ça a eu une influence déterminante justement dans la constitution du cubisme, peut-être même plus que Cézanne, comme Corinne Rondeau l'a rappelé. C'est pas là. Il est après, avec juste le portrait d'Apollinaire et de sa muse, mais il est pas là. Ça aurait été une vision beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus stimulante. À la fin, de la même manière, là, c'est là où je parle d'amalgame, c'est-à-dire que le face-à-face entre la fenêtre à collioure de Matisse et le Fresh Widow de Duchamp, qui ont une espèce d'équivalence de porte-fenêtre, enfin de deux porte-fenêtres qui viennent du cubisme, est un contresens, mais total pour les deux. Donc là, on se dit, au court. Sans compter que dans cette dernière salle, il y a un mur quand même avec un Malevich, un Mondrian serré. Bon, toute l'exposition est serrée, elle est accrochée.
Et on s'incline au milieu.
Et le Tatlin, sur le même mur, effectivement, ouais, alors, vous avez raison. L'exposition, à mon avis, est accrochée sans aucune sensibilité, de manière beaucoup trop touffue. Il y a deux fois trop d'œuvres dans cette exposition. Aucune sensibilité, notamment, on voit aux objets, c'est-à-dire qu'on voit que ça a été fait avec des maquettes et des petites photos, mais par exemple, sans tenir compte des cadres. Moi, j'étais gêné quasiment sur tous les murs. Je veux dire, quand on voit les œuvres en vrai, dans leur matérialité, dans leur physicalité, on les accroche pas comme ça. Enfin, à mon avis, hein, c'était vraiment accroché comme dans un livre, si on peut dire. Ça reprend en bloc l'historiographie en fait officielle du cubisme, parce qu'il faut quand même se rappeler que le premier manuel sur le cubisme, on pourrait prendre plutôt l'expression de manuel, on le doit à Messinger et à Gleize, et non pas justement au cubiste historique. Et donc c'est déjà cette vision abattardie qui a été répandue dans l'histoire. Je dis abattardie pour une raison simple, c'est qu'en fait au départ le cubisme est un réalisme. En fait, c'est une tentative phénoménologique, on va dire, de saisir le monde. Hein. On sait l'importance des débats sur la relativité au même moment, débat de Bergson, etc. Et finalement, on nous montre dans la moitié de l'exposition ce que j'appelle une vision abattardie, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enjeu. Le cubisme est un gimmick, une boîte à outils visuelle hein, dont on peut, effectivement, comme vous l'avez dit, s'emparer pour peindre à peu près tout et n'importe quoi sans aucune autre ambition. C'est-à-dire que ça devient finalement purement rétinien, ce qui est un contresens, à mon avis, total par rapport à l'ambition cubiste. Donc il y a cette première partie effectivement du cubisme historique qui est quasiment un dialogue entre Braque et Picasso et qui est évidemment fantastique, où il y a beaucoup de chefs-d'œuvre, il y a d'ailleurs trop, parce que effectivement la salle des papiers collés au moment 60, je veux dire ça tourne un peu au catalogue, pareil pour des salles précédentes, et puis à mon avis là on peut faire demi-tour. On peut s'arrêter là, parce que le problème du reste, c'est pas... Moi, je serais très stimulé de voir un peu des mineurs, des artistes mineurs, des artistes singuliers, que d'un coup, on vient nous expliquer. Alors d'abord, il y a effectivement là aussi beaucoup de contresens. Brancusi, par exemple, hein, la princesse de Brancusi, qu'est-ce qu'elle vient faire là, la muse endormie, ou qu'est-ce que ça vient faire là? Mais vraiment, pour moi, ça n'a strictement, littéralement aucun sens. Les rythmes colorés de Survage n'ont rien à voir avec le cubisme, ni de près, ni de loin. C'est le premier film abstrait.
Enfin, il est proche d'eux, hein, il faut non, pas... Non,
mais par ailleurs, il y a un tableau cubiste de Survage, mais
là,
ces œuvres-là...
Non, à mon avis, aucun sens.
Brancusi, d'une manière générale, n'a pas grand-chose à voir avec le cubisme. Et puis surtout, il n'y a pas cette relecture contemporaine, j'insiste, parce que je sais que Arnaud parfois n'est pas d'accord. Mais là, par exemple, excusez-moi, j'ai été vraiment frappé par l'absence des femmes. Il y a Sonia Delaunay et Marie Laurencin dans cette exposition. Parce qu'on s'était accroché sur Fautrier, vous avez dit, c'est pas parce qu'on fait une exposition aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir une relecture contemporaine ou que ce soit. Moi, je pense que si on fait une exposition sur le cubisme en 2018,
on fait généralité que j'ai d'accord, Stéphane.
J'ai bonne mémoire quand même.
Pas tellement, non.
Mais moi, je dis, où sont Maria Blanchard, Juliette Roche, Marie Vassiliev, la baronne d'Ottingen, qui n'est représentée ici que par son portrait, par Survage, alors que on sait très bien que cette femme qui a pris le nom de François Angibou pour peindre, et ça, c'est des cas passionnants. Il y a eu une exposition quand même il y a 2 ans à la galerie Minotaure. On a redécouvert ces figures. On a l'impression que cette exposition, elle est complètement hors sol. Elle n'est pas faite avec la pensée d'aujourd'hui.
Je suis d'accord avec vous, Stéphane Corrèa. Ne me faites pas dire des choses que je ne dis pas et surtout que je ne pense pas. Corinne Rondeau, tout à l'heure, je vous ai interrompu. Vous pouvez poursuivre.
Non, mais je pense que c'est pas utile de...
D'épiloguer
dans la mesure où les poètes qui ont beaucoup compté sont en images, quasiment. Mmh. Alors qu'en fait, pourquoi il n'y a pas Mallarmé, par exemple, qui a été quand même... Enfin, sur la Mandore, cette guitare, il en a écrit un poème, la dentelle abolie. Enfin, je veux dire, il y a des choses, c'est vraiment comme un vieux livre d'histoire de l'art qu'on ouvre. Quand on pense qu'en fait, Braque et Picasso étaient loin physiquement, ils faisaient les mêmes tableaux. Je veux dire, il y a quelque chose d'une recherche qui les conduit à chercher comment faire de la peinture autrement. Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui se fait au niveau aussi de... quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'il cherche l'impersonnalité. Et donc, ça, c'est déjà extraordinaire. Et cette exposition n'arrête pas de montrer et de rattacher quelque, peut-être qu'elle est symptomatique à l'égard de tout le monde à son style, tout le monde à sa patte, tout le monde à sa manière de faire à partir, justement, cette conscience plastique de l'espace. Alors que, au contraire, il y aurait une pensée de la, comment les avant-gardes se sont saisies d'un nouvel espace pictural, ou même allons jusqu'à la peinture. Et encore, moi, je pense qu'il faut savoir faire de la réduction pour être juste et pour être précis. Et là, il a découvert que, par exemple, Mondrian, il est là sans y être, alors qu'effectivement, il a travaillé pendant 4 ans pour épurer et atteindre l'abstraction géométrique. Mais ce qui est montré là est tout à fait ridicule, dans la mesure où c'est pas ridicule, pardon. C'est simplement disproportionné. C'est-à-dire, il y a des endroits où il faudrait faire quelque chose d'une stimulation et d'un choc, comme le cubisme l'a été à l'époque. Parce que quand on a Metzinger et Glaze, qui sont les théoriciens du cubisme, qui est pas bon, mais en même temps ils introduisent une dimension qui est la loi, c'est le temps dans le cubisme, alors que ce n'est rien, mais Picasso et Braque n'en ont strictement rien à faire, mais rien. Donc il y a un moment donné où il faut dire à ceux qui viennent voir cette exposition, ça ne relève pas d'un vieux livre poussiéreux d'histoire de l'art, mais au contraire d'une révolution plastique où il y a des chemins divers et que chacun, ils sont portés non pas à la copie, ils sont portés justement à l'expression même. Autrement dit, il y a des articles qu'on ne doit pas voir. Et quant au collage, qui est absolument extraordinaire, c'est vraiment le collage qui démontre que la réintroduction du figuratif n'est pas une imitation du réel, encore une fois. C'est comment les choses sont ce qu'elles sont quand on utilise des formes qui ne sont pas celles de l'art.
Sandra, d'encore aller pour finir peut-être sur cette exposition cubiste.
Je suis d'accord qu'il y a une sorte de disproportion parfois entre, par exemple, le nombre d'œuvres et la taille de la salle, effectivement, et notamment ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est cette fin d'exposition où, effectivement, on dit tableau, on semble vouloir nous dire que le cubisme a mené au néoplasticisme, enfin, à tout cela en dit tableau. Bon, c'est un peu court.
Et
un
peu contemporain, je crois que...
Ouais, voilà, c'est un peu court, c'est un peu raide. Néanmoins, moi, j'ai l'impression que la problématique de l'exposition, c'était de dire que le cubisme, finalement, c'est un nouveau langage, mais c'est pas un système parfait et jamais figé. Et finalement, c'est un langage qui se renouvelle sans cesse et qui va tout le temps se questionner et dont les autres vont, dont tout le monde va s'emparer. Mmh. C'est ça l'importance finalement peut-être du cubisme, et peut-être que l'exposition elle parle plutôt du phénomène cubiste finalement. Peut-être que ça aurait pu être un titre. Mmh. Voilà, moi j'ai l'impression que
bien ou mal utilisé, bien ou mal compris, mais effectivement avec une sorte de catalogue de tout ce qui est possible à partir de cela, mais pas forcément comme vous l'avez déjà dit les uns et les autres dans un respect de l'idée même de départ.
Oui.
C'est cela.
Oui, oui, tout à fait. Et non, il y a juste une note positive. Il y a une salle, la salle sur la guerre, moi, que j'ai trouvée plutôt intéressante, parce que il faut dire que le cubisme, d'accord, est né du primitivisme, etc., mais il est né aussi de la fascination pour l'époque moderne, qui est évidemment pleine de nouvelles machines, de lumières, de mouvements, qui amènent aussi, qui permettent aussi ce nouveau point de vue sur le monde. Mais le revers de cette modernité-là, c'est bien sûr la guerre, et surtout ce que la modernité permet en termes de nouvelles manières de tuer. Et il y a une très belle phrase de Fernand Léger, et après je m'arrête, sur cette idée que il n'y a pas plus cubiste qu'une guerre, dit-il en 1915, comme celle-là, qui te divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux et qui l'envoie aux quatre points cardinaux. Et en effet, c'est cette guerre-là qui va sonner la fin du mouvement cubiste.
Et le mot de la fin, le mot, un seul, dans Stéphane Coréard.
Non, je voulais juste te dire que dans cette deuxième partie où on voit beaucoup des professionnels de la profession cubiste qui font un peu du décoratif, moi, pour moi, les rares bonnes surprises sont venues des amateurs. Il y a un tableau de Pierre-Albert Biraud, le poète Pierre-Albert Biraud, qui est une espèce d'abstraction un peu kitsch, comme ça, avec des couleurs un peu criardes. Il y a un petit collage de Cocteau, qui n'est pas justement du tout un collage cubiste, d'une certaine manière, mais qui est déjà son maniérisme, mais qui est assez frais. Et puis des aquarelles de guerre d'André Marre, également dans une vitrine.
Le cubisme jusqu'au 25 février au Centre Pompidou, avec un catalogue édité par le centre à cette occasion à suivre dans la dispute. Il va falloir serrer le temps. Alberto Giacometti à Mayol, Yann Libetz à la BNF et un coup de cœur de Corinne Rondeau. Tiens, Picasso, ça faisait longtemps.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute art plastique en nous rendant au musée Mayol pour y découvrir l'exposition Alberto Giacometti entre tradition et avant-garde, dont les commissaires sont Catherine Grenier et Thierry Poteau. L'exposition présente une cinquantaine de sculptures provenant de la fondation Giacometti, mais aussi 25 œuvres d'autres artistes pour dialoguer avec les œuvres du Suisse Éric Morin et le scénographe de cette exposition.
Par hasard, je suis tombé sur un crâne qu'on m'a prêté. J'ai eu une telle envie de le peindre que j'ai laissé tomber l'académie pendant tout l'hiver. J'ai passé tout l'hiver dans une chambre d'hôtel à peindre le crâne. voulant le préciser, le saisir autant que possible, je passais des journées seulement à tâcher de trouver la tache, la naissance d'une dent, non, qui monte très haut près du nez, et le suivre le plus exactement possible dans tout son mouvement, non. Et alors là, peu à peu, d'avoir un crâne devant moi ou un personnage vivant, la différence devient minime. Un vaut à peu près l'autre. C'est-à-dire que le crâne prend, pour finir, une présence vivante, n'est-ce pas ? Un crâne n'est pas l'équivalent d'une table ou même d'un fruit, un objet. Il est plus proche quand même d'une tête vivante que de n'importe quoi, ce qui m'a toujours assez troublé. Mais par contre, travaillant d'après un personnage vivant, et ça, avec un peu de frayeur, presque, j'arrivais, si j'y insistais un peu, à voir à peu près le crâne à travers. Tout d'un coup, j'ai vu que dans cette personne, la seule chose qui restait vivante, c'était le regard. C'est ça qu'on voulait sculpter.
Bien sûr, Alberto Giacometti, qu'on vient d'entendre dans cette archive, Sandra Adam Courallet. Bon, j'ai un peu dit, en insistant, à Alberto Giacometti, entre tradition et avant-garde, est-ce qu'on pourrait arrêter avec ces titres-là? Je pense que bon, ça devrait être banni, genre,
oui,
ça, gentiment, pour les gens du musée Mayol, mais bon. Alors, oui, c'est très explicitement...
En même temps, ça résume très bien la problématique de l'exposition. Et d'ailleurs, c'est pas mal, je trouve, de voir cette exposition après celle sur le cubisme.
Vous l'avez fait comme ça, vous, dans cet endroit-là ?
Puisque Giacometti, qui arrive en 22 à Paris, est un contemporain, on va dire, du cubisme tardif. Voilà, donc ce titre, Giacometti entre tradition et avant-garde, résume bien l'exposition, puisqu'on a d'un côté des salles consacrées au Giacometti, qui s'essaie donc lui-même à ce vocabulaire cubiste, qui va ensuite être proche des surréalistes. Et puis on a d'un autre côté un Giacometti qui va trouver une voie bien à lui et qui revient à la figuration d'après le modèle, d'après le réel. Qui est un Giacometti qui est héritier d'une autre tradition de la sculpture, qui est celle de l'Antiquité et la copie des grands maîtres. Alors l'exposition, elle présente, je crois, plus de 50 sculptures de la fondation Giacometti. Et elles sont mises en regard chaque fois au cours de l'évolution de la carrière de l'artiste avec des œuvres d'autres artistes contemporains qu'a côtoyé Giacometti. Donc il y a à la fois Brodin, Bourdelle, Mayol, Despiau, mais aussi donc plus avant-gardistes, si je puis dire, Brancusi, Laurence, Lipschitz, je ne sais plus, Zadkine, etc., etc. Donc dans les premières salles, on voit les premiers portraits classiques de Giacometti lorsqu'il arrive à la Grande Chaumière et qu'il étudie chez Bourdelle, donc aux côtés des artistes Despiau et Mayol. Puis on rentre dans cette grande section qui est consacré à la rencontre des avant-gardes parisiennes après 1925, et d'où découlent en fait des personnages géométrisés, notamment. On a par exemple cette œuvre qui s'appelle Le Couple de 1927. On voit que Giacometti, lui aussi, comme les avant-gardes, a regardé les œuvres extra-européennes, et on a donc un homme et une femme. Qui s'inspire franchement de la statuaire africaine. Alors on est déjà loin des volumes facettés du cubisme, et il y a une frontalité qui fait plutôt penser au fétiche africain, tout en affirmant petit à petit, on le voit, chez Giacometti, un vocabulaire géométrique propre. Et ensuite, entre 27 et 29, il y a ces séries incroyables de stèles ou de sculptures plates, notamment la femme plate, qui est un plâtre de 1929 de la fondation Giacometti, où on voit que l'anatomie féminine, elle est vraiment réduite là à quelques traits comme ça qui sont gravés dans le plâtre, et une féminité qui est aussi suggérée par de légers jeux de formes convexes et concaves. Et dans cette salle de l'exposition, ces œuvres sont comparées par exemple au contemporain Brancusi, cette fois-ci je pense qu'il a il a lieu d'être, et Laurence, qui sont deux artistes qui eux aussi sont dans cette recherche d'une stylisation extrême. Et ensuite, après toutes ces expérimentations oniriques, il y a cette deuxième partie de l'exposition où on observe justement Giacometti et son retour à la figuration, et là où va apparaître son style,
la maturité. Le Giacometti qu'on connaît maintenant, voilà, pour cette balade déjà. On va pouvoir rentrer dans le détail avec Stéphane Coriard.
Oui, moi je pense que pour changer, ils auraient pu intituler l'exposition plutôt Giacometti entre tradition et tradition, puisque c'est quand même, il est quand même toujours tiré un peu vers le passé, hein, parce que vous l'avez dit, mais Mayol, Despiau ont 10 ans de plus que lui, il est incomparablement plus moderne que la plupart des artistes avec lesquels il cohabite dans cette exposition, à l'exception sans doute de Brancusi et de Germaine Richier, mais on aura l'occasion d'en parler, ça c'est au rez-de-chaussée. Effectivement, l'entrée est très belle, je trouve, avec ses sculptures qu'il réalise quand il est très jeune, il est adolescent, des portraits de famille tous, et effectivement c'est de toute façon comme ça que Giacometti va pouvoir parfaire son art en sculptant et en dessinant et en peignant éternellement les mêmes sujets, sa mère, sa femme, son frère, et ça je trouve que c'est très beau de voir ça dès le début, notamment d'ailleurs des membres de la famille qu'il n'a pas tellement sculpté après, comme Bruno par exemple, dont on ignorait tout jusque là. Je ne vais pas revenir sur les débuts que Sandra Adancourt-Allais a fort bien décrit. J'ai beaucoup aimé aussi la femme plate 5 vers 1929, le plâtre dont parlait Sandra, et dont j'ai noté une belle phrase de Cocteau à son sujet. Il
dit que c'est
tel de la neige gardant les empreintes d'un oiseau. Mmh. C'est exactement l'impression que donne ce plâtre. Il y a une autre très belle pièce que je ne connaissais pas, le couple en pierre, effectivement, de 1925-1927, on dirait un Baslitz. À une échelle réduite, mais c'est absolument un Baslitz. Donc, je ne sais pas si Baslitz connaît cette œuvre, mais c'est très proche de sa sculpture, comme ça, avec des traces de peinture rouge sur ce plâtre, vraiment magnifique. À ce moment-là, il y a aussi un très beau moment d'accrochage, effectivement, avec deux petits dessins. Il n'y en a pas beaucoup dans l'exposition, mais là, il y a un dessin d'une sculpture non figurative vers 1926 de Giacometti qui est mis en pendant d'un baiser de Brancusi. Et puis, on arrive effectivement dans cette grande salle. Finalement, l'exposition est construite autour de deux grandes salles, celle-ci que je vais vous décrire au premier étage, et puis une au rez-de-chaussée. Des parties pris de scénographie assez audacieux au centre. Il y a ce minuscule buste de Silvio qui est sur un double socle, toute petite sculpture qui est ensuite dans une grande vitrine. Hein. Et puis à droite, c'est assez martial. Hein. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez la progression de Giacometti effectivement dans sa recherche sur le visage jusqu'à cette forme de sculpture existentialiste. On pourrait dire, alors après la pression redescend, hein, puisque au fond, il y a Mayol. Alors là, tout de suite, on est un peu tiré par la manche vers le passé. Ensuite Bourdelle, effectivement. On nous explique qu'il y a des rapports très très forts, par exemple sur le fait que Bourdelle aussi sculpte le socle dans la masse, dans le bronze, voire même parfois des doubles socles, hein, comme Giacometti, mais enfin ça reste quand même pour moi assez ténu, même s'il y a aussi le visage un peu cycladique de Mayol, bon, on peut voir effectivement des échos, et puis effectivement, alors après ensuite à gauche, Giacometti de nouveau avec cette épure incroyable jusqu'en 65, jusqu'à l'os, enfin il y a quasiment plus rien, d'ailleurs il y a un très beau bronze qui est Diego sans crâne, là vraiment le visage se réduit quasiment à une ligne, hein, c'est du dessin dans l'espace, un peu comme Gego. En dehors de ces grandes salles, le parcours est parfois trop morcelé. J'ai trouvé que le dialogue parfois avec les autres artistes aussi était difficile à cause des échelles particulières, de l'échelle particulière des sculptures de Giacometti. Je pense notamment à cette salle où il y a des groupes, donc de Giacometti, et puis il y a les bourgeois de Calais de Rodin et trois nymphes de Mayol qui sont quand même tous assez costauds, bien en chair, très rapprochés, très qui prennent beaucoup, c'est du dessin mais au marqueur, quoi, dans l'espace, là on n'est pas ou même au gros pinceau, quoi. Donc je trouve que le dialogue est parfois un petit peu contraint. D'autant qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas toujours eu les prêts qu'ils voulaient. Donc parfois il y a des rapprochements qui paraissent un petit peu tirés par les cheveux. D'ailleurs il y a deux endroits où on nous met des livres qui auraient appartenu à Giacometti, où il a recopié, il y a notamment L'homme qui marche de Rodin, qui est mis en parallèle de L'homme qui marche de Giacometti. Ça marche très bien, si je puis dire, en petit sur le livre et en grand, mais sauf que la sculpture de Rodin qui est là, c'est un Saint Jean-Baptiste très très académique, et finalement là ça fonctionne beaucoup moins, à mon avis, que on a l'impression qu'ils ont pas pu avoir L'homme qui marche, et que c'est un petit peu dommage.
Bon, ben voilà encore des précisions à penser sur cette exposition de Giacometti entre tradition et avant-garde. Corinne Rondeau.
Oui, moi j'ai quand même, je suis d'accord avec tradition et tradition, mais c'est toujours émouvant d'aller voir du Giacometti. C'est vraiment, C'est quelqu'un qui ne... D'abord, c'est une exposition sur uniquement la sculpture, quasiment. Hein. Et c'est assez beau de se dire que ce type qui a commencé face à quelqu'un s'est arrêté. Il a fait faussement des figures cubistes, mais enfin, on sent qu'il est dans le massif. Et puis, on se dit que jusqu'à après la période surréaliste, après 35, il a quand même il est repassé du côté du tabouret face à quelqu'un. Mmh. Et je trouve que cet entêtement... cette manière de répéter, de reprendre sans arrêt l'ouvrage, mais reprendre aussi le visage entre les mains, c'est chaque fois une émotion parce que c'est cette reprise qui est émouvante. Et de voir à chaque fois que se joue là devant nous, toujours la fuite de la ressemblance, la fuite de la matière. Voilà, c'est cette question d'être au plus loin en étant au plus près. Et d'ailleurs, on a toujours tendance soit à lever la tête parce qu'il fait de grandes sculptures, soit à se baisser pour les voir. Donc il demande quelque chose du corps face à quelque chose qui est aussi du corps. Quand c'est du corps, et puis quand c'est le visage, c'est aussi des rapports d'échelle qui sont toujours extrêmement motivants, puisque la question, l'unique question du travail du Giacometti, c'est qu'est-ce qu'on voit ? Que voit-on, enfin ? Et je trouve que ça ne s'épuise pas quand on va voir du Giacometti. Et je trouve que cette exposition, alors, moi j'ai complètement squeezé, vous savez, l'atelier de Giacometti écrit par Genet. Il dit que, à côté d'elle, il parle de ces groupes de statuettes en sentinelles, puisque ce sont des lignes comme ça. D'ailleurs, dans la salle des groupes, des figures, et vous avez la forêt, et qui fait vraiment sentinelle. C'est pas, s'il y a de la métonymie entre les arbres et ses corps comme ça. Et il dit à côté d'elle, pas ça exactement, mais à côté d'elle, les statues de Rodin ou celles de Mayol sont prêtes de rôter puis de dormir. Et évidemment, je les ai pas regardées. Enfin, je trouve que c'est bien mis dans l'espace. Je trouve que finalement, même martialement, ça se lit. Il y a du mouvement qui se lit dans la progression de la sculpture. Et puis enfin, je trouve que l'éclairage est assez beau. Il est même très beau, je trouve, sur certaines salles, notamment au rez-de-chaussée, où on a la feuille de Richier, absolument admirable. Et puis on a une femme de Giacometti, et c'est l'ombre, et comme ça elle a l'impression de se dissoudre complètement dans le fond, parce qu'ils l'ont mis très près du mur, ce qui fait que quand on est face à elle, on a l'impression que elle, si on s'approche encore, elle va disparaître dans le mur. Je trouve ça extraordinairement bien fait et bien vu, et rien que pour ça, parce que là se joue pour le coup le rapport visuel de la sculpture chez Giacometti. Je trouve que c'est extrêmement bien réussi.
Stéphane Corriard.
Oui, on peut quand même reparler effectivement de cette feuille de Germaine Richier, qui est une sculpture absolument extraordinaire, avec un mouvement d'ondulation, de fragilité.
On parle souvent de Germaine Richier ici, c'est très bien.
Et en plus, gravé dans la peau des motifs de feuilles. Là aussi, on retrouve la métonymie entre l'arbre et le corps féminin. C'est quand même un scandale qu'il n'y ait pas une rétrospective de Germaine Richier.
À force d'en parler, peut-être ça va.
Voilà, quelque part. Et effectivement, moi, je me suis mis à imaginer une exposition qui n'est pas là, qui serait la vraie exposition peut-être Giacometti entre tradition et avant-garde, où on serait allé du côté effectivement plutôt de ses successeurs. Et après Germaine Richier, on aurait pu imaginer César, on aurait pu imaginer Richard Serra, on pourrait imaginer Barry Flanagan. Je trouve que ça ferait une exposition peut-être beaucoup plus intéressante, et j'ai même pensé, ce qui est un petit peu audacieux, aux Big Nudes de Helmut Newton, en voyant les quatre femmes sur socle, par exemple, auxquelles répondent absolument les quatre nus de Newton, qui auraient été faits après tout que 35 ans après. Et toute cette série des Big Nudes, si on la regarde en parallèle avec Giacometti, je pense que ça fait une petite exposition intéressante pour l'atelier de Giacometti.
Voilà, c'était une annonce du commissaire Stéphane Correa. Un bon entendeur. Un dernier mot, Sandra, donc on va aller sur cette exposition Giacometti.
Oui, non, je partage l'émotion de Corinne face à Giacometti, qui effectivement aurait pu se suffire à lui-même. Néanmoins, je trouvais certaines comparaisons les bienvenues, notamment celle avec Rodin. Moi, je trouvais que c'était le bienvenu, notamment autour de la question, pardon, du socle et de la figure, qui est évidemment essentielle chez les deux artistes, et le Saint Jean-Baptiste qu'on voit à la fin. Il faut savoir que Rodin quand même s'emparait toujours des mêmes morceaux, c'est-à-dire qu'il pouvait sculpter notamment l'homme qui marche et se servir de cette sculpture pour différentes sculptures. Donc je pense que c'est une reprise de l'homme qui marche, donc je trouvais que ça marchait.
Ça fonctionne. Voilà. Alberto Giacometti, entre tradition et avant-garde, jusqu'au 20 janvier au musée Mayol, et puis un catalogue publié par les éditions Fonds Mercator. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas parlé de Picasso dans cette émission, dont on parle trop rarement, donc Corinne Rondeau a eu la bonne idée de, d'y consacrer son coup de cœur, Corinne.
Pas uniquement, puisque voilà, c'est au Carreda, et en fait, je suis allée pour Carreda,
Nîmes,
et j'y suis allée pour Ligne de fuite, mais figurez-vous que, comme c'est une construction en miroir des deux expositions, j'aurais très bien pu parler d'une seule, mais Picasso, Le temps des conflits et Ligne de fuite, ça se rencontre, et je trouve ça, c'est fait plein d'intelligence, de discrétion et de... Je dirais que la clé de ces deux expositions, qui sont les deux ailes du musée, relève en fait de la manière dont on fait un récit de notre histoire. Donc ça parle de Guernica, on aura le beau tableau sur la guerre de Corée, de Picasso, mais en même temps on est pris dans l'histoire avec un grand H et un petit H, puisque Dora Maar fera les photos de Guernica. Mmh. Donc on a le film de Alain René et de Robert Essen de 1950 avec la voix de Maria Cazares pendant 13 minutes. Vous pouvez le regarder sur YouTube, c'est disponible. Et cette manière d'avoir cette éloquence contre l'injustice, la guerre, la destruction, puis ces photographies, et puis ces fils aussi, qui, parce que c'est un trajet, ce tableau de Guernica, on l'a pas, mais c'est pensé en creux. Et Dora Maar, qui aura fait les photos, qui aura été la pauvre compagne aussi de ce monstre qu'est Picasso, eh bien, il y a toute une série, après, dans la deuxième salle, sur les portraits de la femme qui pleure. Mais figurez-vous qu'à la fin, on a une œuvre de Rinek Dijkstra, et qui est, j'ai vu une femme pleurer, a woman, I see a woman, a crying woman. Et ce sont trois écrans où des petits Britanniques parlent du tableau de la femme qui pleure de Picasso. Et d'un coup, vous avez Maria Cazares et la jeunesse qui parlent. Et d'un coup, c'est effectivement la question du récit qui s'expose. Et comme l'exposition est aussi beaucoup faite autour du dessin, et c'est la ligne. Et cette ligne, elle nous fait aller de l'autre côté du musée avec quatre artistes, un Palestinien, une Libanaise, un Albanais et un ex-Yougoslave qui vit à Bruxelles, Khalil Rabah, Munira Alsol, Ibro Azanovic et Adrien Pacci.
Et
cette manière, en fait, d'être face à un monstre et être, eux, là, à faire ce qu'ils peuvent en temps de conflit, puisqu'on est du côté des camps, on est du côté des exilés, on est du côté du témoignage de ceux qui sont partis de leur vie, proprement parler, et on retrouve le visage, et le visage est toujours là, et il y a aussi les enfants à la fin qui est en miroir aussi dans la dernière salle avec Ibro à Azanovic, où en fait c'est à Pristina en 2015, et en fait on va faire, les gens partent en bus, donc on nous raconte rien, on voit juste des gens s'amalgamer à des cars, et à la fin, en se rapprochant petit à petit, sans doute filmé avec un téléphone, les enfants sont pris par-dessus les épaules et les têtes des hommes, ils sont rentrés dans ces bus, et ça fait évidemment rapport à cette jeunesse en uniforme parlant d'une femme qui pleure face à un. Et l'art, c'est tout ça. C'est le regard, mais c'est aussi et surtout comment on fait le récit de nos vies. Et si les formes plastiques, on peut les trouver faibles dans la partie contemporaine, on peut dire qu'il y a une manière de se dire, les artistes aussi sont dans l'impuissance de leur forme, parce que la question de la situation, c'est d'aller à l'urgence de la situation.
Picasso, Le temps des conflits et Ligne de fuite, deux expositions à voir conjointement jusqu'au 3 mars au Carré d'Art à Nîmes.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Dernière séquence de cette dispute. Comment faire en 11 minutes pour parler de Make It New, Make It Quick, conversation avec l'art médiéval. C'est une carte blanche à Yann Debets, à la BNF. Yann Debets, qui est surtout connu pour son travail photographique, médium grâce auquel il réalise des anamorphoses, des panoramas imaginaires, mais il est aussi, il est plutôt rapproché du land art, de l'art conceptuel, mais là, il est commissaire et artiste de cette exposition à la BNF. Et puis, il a une grande passion pour l'art médiéval, qu'il a donc pu assouvir ici en mettant en regard une sélection de manuscrits enluminés de la Louange à la Sainte-Croix, du 9e siècle, avec une trentaine d'œuvres issues des courants minimalistes et conceptuels. Alors, on pourrait dire catalogue, hein, Karl André, François Morlet, Sol Lewitt. Moi, j'aime plutôt bien ce genre de catalogue. En tout cas, il nous invite, Yann Libet, à savoir comment l'art médiéval peut être réactualisé, ou actif d'ailleurs, aujourd'hui.
Grandolvi, calvi, brandolvi, calvi, 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 cal
Maître Stéphane Coréard, pour parler de Yann Dibetz. Voilà, BNF, site François Mitterrand.
Oui, j'ai veillé à ne pas faire de grimaces pendant que vous présentiez l'exposition, Arnaud. J'espère que vous m'en saurez gré.
J'ai remarqué que vous n'aviez pas fait de grimaces, Stéphane Coréard. Qu'est-ce à dire?
Alors, cette exposition, effectivement, dont le sous-titre est « Conversation avec l'art médiéval », comme vous l'avez dit, c'est une exposition d'artistes. Yann Dibetz, qui invite quelques collègues proches, beaucoup sont ses amis, il y a des œuvres qui proviennent, on le devine, de sa collection personnelle, donc c'est vraiment une exposition très intime, ce qui est plutôt très beau, en fait, de voir un artiste vouloir exprimer comme ça son environnement le plus immédiat. C'est aussi une rencontre, à mon avis, inédite entre l'art médiéval et l'art minimal. Effectivement, une exposition, c'est une pièce, une grande salle, unique, avec une installation d'une grande élégance, très précise, dans son installation, dans ses mises en relation visuelles. Et une exposition qui joue sur le carré, qui est la forme des calligrammes, des illustrations dont on va parler, qui rythme et qui donne l'occasion de l'exposition, où l'horizontale et la verticale évidemment jouent un très grand rôle. Il y a un peu de cercle, il y a trois rectangles, les gravures de Donald Judd, la photographie de Dibetz aussi, donc et la ligne de Richard Long qui structure l'espace, puisque la mise en relation de toutes ces structures géométriques essentielles passe par la diagonale, donc à grande échelle, comme je l'ai dit, avec la pièce de Richard Long en pierre, et aussi à l'intérieur des œuvres elles-mêmes ou dans celles à l'échelle du mur de Toroni, par exemple, avec ses cinq tondis disposés en quinconce. Alors il faut que, comme vous m'avez lancé sur ce sujet, c'est moi qui vais devoir expliquer qui est Raban Mort, le principal artisan de la Renaissance carolingienne que vous connaissez tous, qui est né vers 780 à Mayence et mort en 856. Je ne le connaissais pas. Sur Twitter, des médiévistes m'ont dit, mais enfin, c'est une star. Bah, on ne connaît pas les contemporains qui sont là. Et bien, voilà, mais moi, je ne le connaissais pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, puisque Dibetz lui-même dit qu'il l'a découvert il y a 10 ans par hasard à la BNF, qui n'est pas l'endroit où sont conservés la plupart de ces...
Mais il y a 10 ans, il y a eu plein de bouquins qui sont sortis sur...
J'étais
pas né, Corinne.
Laissez-nous notre ignorance. C'est fascinant de découvrir ça.
Deux, je crois.
Donc effectivement, l'exposition est centrée autour des illustrations du livre des louanges de la Sainte-Croix, comme vous l'avez dit, qu'il a réalisé quand il était abbé de Fulda en 810 pour l'empereur Louis le Pieux. La croix, effectivement, est au centre de ce livre qui est dédié à la vénération du signe de la croix à travers 28 calligrammes poétiques qui sont donc qui reprennent des éléments du texte. Le texte est composé en vers hexamètre et en prose, et les parties en vers sont donc proposées en calligrammes par Raban Mort. Les lettres sont alignées et les illustrations, qui peuvent être géométriques, ce qui est le cas dans celle qu'on voit dans l'exposition, mais aussi représenter des personnages, parce que j'ai quand même fait une petite recherche, Corinne, sont superposées au texte, et les lettres qui sont à l'intérieur de ces figures forment un deuxième poème à l'intérieur du premier. Voilà.
J'étais sûr que vous alliez me sortir de cette mauvaise passe. Corinne Rondeau, qui connaît par cœur donc
je suis pas du tout professionnelle, mais c'était tellement saisissant quand on l'a vu qu'on s'en rappelle.
Maintenant on va s'en rappeler nous aussi.
Alors le choix de Dibetz, sans parler de la louange à la Sainte-Croix, il aurait dû mettre Aurélie Nemours qui dit le carré, le cœur de la croix. Ça nous aurait arrangé pour faire de la sémantique et de la forme.
Peut-être
aussi.
Peut-être qu'il ne connaît pas
Aurélie Nemours. Oui, peut-être. Mais alors moi, tout a été expliqué, ou presque. Je trouve que ces livres se mériteraient qu'on les voit davantage. Et ce qu'a fait en fait Yann Dibetz, c'est de sortir la page et le poème de sa dimension géométrique à la lecture. C'est-à-dire que c'est une question de rythme, hein, puisqu'en fait les lettres sont toutes à intervalles réguliers, ce qui fait qu'effectivement vous avez sur la page de droite l'explication à la fois de comment il faut lire, quelle est la dimension spirituelle à l'intérieur de cette page, et de lire effectivement ce qu'on appelle les versus intexti. Ce sont les phrases qui sont dans les formes géométriques ou les formes figuratives, et on ne les voit qu'en sortant de cette salle sur des livres, sur des écrans qui tournent les pages du bouquin. Alors là, il y a un parti pris de l'artiste qui est de dire, moi je ne montre que la géométrie, et ça va bien avec mon regard, etc. Sauf que lorsque vous faites un gros tirage de ces pages, vous n'êtes plus dans le rapport, je dirais, propre à la question de l'effet de la lettre chiffrée dans le texte. Vous faites en fait comme du Anna Derboven, c'est-à-dire que à remplir la page, vous produisez une unicité figurative, même si elle a une géométrie. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une manière de plier ce livre extraordinaire, parce que c'est extraordinaire, que de voir que quand même, le mec fait surgir une image d'un texte. C'est-à-dire que ce qui est premier, c'est le texte qui fait venir l'image. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Quand vous avez des gens qui se disputent en se disant c'est le texte ou l'image qui est premier dans le langage, finalement. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de la mathématique. Quand on avait fait la Fondation Cartier, on avait eu l'art tribal. Et je me rappelle avoir dit, la source de tout, c'est la géométrie. Elle est à la base. Et le roi Gourand, d'ailleurs, qui est cité dans le catalogue, le disait. Enfin, je veux dire, la géométrie, c'est ça. Et je trouve que ce faussement avec le minimalisme, on passe à côté de la vraie géométrie de ce texte, qui est un trésor absolu et un bonheur.
Sans fin. Sandra Dencourallé.
Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au-delà de l'exercice, on va dire, d'analogie formelle entre... enfin, que propose Yann Dibetz, donc, entre des œuvres qui sont empreintes d'une spiritualité évidente, puisque le manuscrit s'intitule « Louange à la Sainte Croix », et à l'intérieur du manuscrit, d'ailleurs, on a ces signes cruciformes qui sont en fait une manière visuelle de méditer, je crois, sur la croix. Donc, on a d'un côté une œuvre qui est le fruit d'un exercice spirituel, et de l'autre, on a des œuvres issues d'un art dit minimal, conceptuel, à partir des années 60, on va dire, qui sont plutôt l'affirmation d'un formalisme, et qui cherchent surtout à évacuer la question de la subjectivité dans l'art. Mais néanmoins, cette mise en regard étrange, qu'on pourrait trouver étrange, que fait Yann Dibetz, elle permet aussi de s'interroger sur peut-être la qualité plus mystique que prévu, en fait, des œuvres d'art minimal. Et en fait, on s'aperçoit d'ailleurs que dans de nombreux écrits d'artistes de cette époque, enfin de ces artistes qui sont cités dans l'exposition, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de vœu de, comment dire, de neutralité et de dépersonnalisation qui n'est pas sans rapport, peut-être, je trouve, avec l'art du renoncement et du refus. C'est Barbara Rose qui faisait ce rapprochement dès 1965, pardon. Voilà, et je trouvais intéressant de soulever en tout cas cette question, et ça m'a aussi fait penser d'ailleurs à d'autres exercices de méditation que font les moines zen, les moines japonais zen, qui sont ces exercices qui consistent à peindre d'un seul trait, je crois, un cercle parfait, qui est l'expression en même temps du vide et du plein. Et là aussi, le résultat visuel, c'est une abstraction qui a d'ailleurs inspiré des artistes dès les années 30, comme Kupka avec sa série de cercles.
Ouais, moi, j'y vois plus une confirmation hein, que les minimalistes sont des mystiques, mais aucun rapport, en tout cas, avec on va dire le cosmos ou avec des entités supérieures. Un tout petit mot chacun.
Alors,
chacune,
moi, j'ai quand même un énorme problème avec cette exposition, donc il faut quand même que j'en parle. D'abord, plus qu'Aurélie Nemours, je trouve que ce qui manque vraiment, c'est Alighiero Boëti. C'est les grandes broderies d'Alighiero Boëti où la lecture circule de la même manière, la géométrie, la couleur joue un rôle essentiel. Je trouve ça aurait dû être. Non, mais mon problème, il est bien plus grave. Mon problème est bien plus grave, c'est qu'il y a, à mon avis, un énorme problème, c'est la mise en agrandissement comme ça de ces pièces.
C'est ce que disait Corinne.
Oui, mais avec une matérialité, ils font 2 cm d'épaisseur, ils sont sur 10 bons. Je veux dire, c'est pas signé, soit c'est une œuvre de Dibetz, soit c'est pas une œuvre de Dibetz. Mais là, par exemple, cette matérialité, quand c'est mis à côté de la pièce de Charlton, ça pose un réel problème. Je veux dire, qu'est-ce qu'on nous montre? D'autant que les livres sont là aussi en originaux. Et à mon avis, si c'est considéré comme un artiste et si c'est considéré comme une œuvre, il fallait la laisser à son échelle. Et effectivement, peut-être accompagné d'une vidéo, mais certainement pas. Il a voulu jouer dans l'espace. Il a voulu faire le malin comme ça, jouer dans l'espace. Mais dans ce cas-là, il fallait le co-signer. Et je voudrais dire aussi que, à mon avis, la relation marche encore mieux quand on sort un petit peu de ce minimalisme un peu sec. Et je trouve que c'est avec Franz Serra-Walter, avec les papiers de Franz Serra-Walter, que vraiment, et notamment au niveau de la couleur, c'est absolument magnifique le rapport entre les deux.
Trop long. Fini, Corinne Rondeau.
Où je trouve que les textes tournent un peu trop à la mystique qui est posée et qui, dans les cas, je suis pas en accord, parce que Saint-François d'Assise, tout le monde peut l'appeler si on veut.
Make it new, conversation avec l'art médiéval, carte blanche à Yann Dibetz jusqu'au 10 février, la BNF cite François Mitterrand, et puis évidemment un catalogue édité par la BNF à cette occasion. Rondeau, ne chatouillez pas sa radio, qui est là pour le jeu de la dispute, qui nous rappelle d'abord la question d'hier au soir et sa réponse.
La question était, quelle était la profession de Georges-Henri Rivière qui fait l'objet d'une exposition au MUCEM? Et la réponse est muséologue.
Ce soir, des invitations à gagner pour le film Première Solitude de Claire Simon qui est sorti ce jour sur les écrans. La question ?
Dans quelle commune se déroule le film de Claire Simon, Première Solitude ?
Ah, je ne l'ai pas dit dans la question. Hein. Je ne me retrompe pas tous les soirs. Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Pendant que Stéphane Coréard tweet déjà, laissez-moi vous dire que les autres informations sur cette émission, au-delà de Twitter, sont à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la bande dessinée avec Catherine Robin, Joseph Gosselin et Antoine Guillot. Nous rendrons d'abord hommage au grand Stan Lee et nous évoquerons également le livre de Nick Dranson, Sabrina, celui de Tipex, Andy, un conte de fées, et puis un coup de cœur pour Indélébile de Luz.